Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour. Le mois de juillet, première émission de Radio Courtoisie pour cet été. Un été que je vous souhaite ensoleillé. Pas trop trop chaud quand même, parce qu'on a eu ces derniers temps des chaleurs assez abominables. Mais voilà, c'est bien parti. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 3 juillet, si je ne me trompe. Et autour de cette table, dans ce studio magnifique, j'ai la chance, le bonheur, la joie d'accueillir trois magnifique jeune femme, donc Emmanuelle de Boisson pour son ouvrage Tendre Maroc, qui va nous faire visiter au Maroc, nous rappeler des souvenirs un petit peu lointains pour certains, voilà, une très très belle découverte. Le livre a été en librairie au mois de mars, hein, il est toujours en librairie, je l'ai vu dans quelques vitrines de librairie, bravo Emmanuelle. Nous avons également Sue Berger avec un titre extraordinaire, La revanche des pelotes de laine, tout un programme. Alors Sue, elle a écrit un premier roman, c'était votre premier roman, Les Chandeliers.
Alors non, le premier s'appelait Les Pentes.
Ouais, Les Pentes,
s'intitulait Les Pentes, voilà.
Et après c'était Les Chandeliers.
Les Chandeliers, puis La revanche des pelotes de laine.
Voilà. Et donc un nouveau roman sincère, sensible, voilà, avec des héros chahutés, voilà, plein d'anecdotes, de tas de petites choses que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire.
Si.
Donc elle va nous en parler dans quelques minutes. Et puis nous avons non pas Fanny Brucker, mais nous avons Emma. Je suis perdu le livre. Oh là 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 là. Nous avons pour Francis James, Ma fille Bernadette, avec une préface d'Emma Becker. Alors là, ça m'a beaucoup interrogé, parce que je me suis dit, mais pourquoi Francis James, on dit, pourquoi cette préface, pourquoi ce livre, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce livre? Voilà, donc, alors vous écrivez également.
Oui, tout à fait, oui, mais je vais tout vous dire.
Dites-moi tout, hein. Vous me direz
suite.
Tout, c'est vous qui allez en parler, hein.
Ah,
moi je vais vous laisser
fait.
Parler. Hein.
Je me fais l'ambassadeur de Francis James.
Voilà, c'est l'ambassadrice de Francis James, Emma Becker. Voilà, on va parler là. Et puis j'ai quelque chose aussi que j'aime bien présenter, c'est le service littéraire. Le service littéraire, c'est un magazine que je reçois, qui sort tous les mois, qui est fait par notre ami François Céréza, qui est une petite merveille, qui nous annonce les parutions, les livres qui sortent. Je retrouve plein d'auteurs qui écrivent à l'intérieur de ce livre, dont la personne qui est en face de moi, dont Emmanuelle de Boisson, qui vient d'écrire encore un magnifique article en première page, sur la page là. Alors, je vais donner le titre, hein. Je ne la connaissais pas comme ça, mais bon, voilà, elle s'est passionnée pour un titre qui s'appelle « Le roman à la mort moelle-neu », voilà, dans une maison chez Harper et Collins.
Oui, c'est une descente, hein. D'un roman, j'en fais. De temps en temps. Voilà. J'y vais carrément d'ailleurs.
Bah, je vous découvre avec beaucoup d'humour et ouais. Ça, je trouve ça formidable. Ouais. Voilà. Donc, vous écrivez régulièrement dans Service littéraire. Je vous conseille aussi de vous abonner à ce magazine parce que c'est une petite merveille.
Faut pas passer dans mes griffes, attention.
C'était. Oui.
Ça fait mal.
C'est une petite merveille. Vous avez des papiers de tas d'auteurs qui écrivent et qui citent leurs livres parce qu'à chaque fois, il y a qui a écrit l'article et on retrouve à la fin la personne avec le livre qu'elle a écrit.
C'est un journal écrit par des écrivains.
Voilà, donc on retrouve des tas de gens qui sont plutôt passionnés par cette chose imprimée qu'on appelle le livre, par l'écriture, par la littérature, voilà. Et puis il y a tout un papier dans ce journal, c'est pour Bullet en vacances. J'aime bien le mot Bullet en vacances par Bernard Morlineau aussi, qui est une petite merveille. Voilà, alors on va parler avec Emmanuel de Boisson, de Tendre Maroc. Alors moi, je me suis délecté avec ce livre parce que c'est un passé pas très lointain quand même, il y a une trentaine d'années, à peu près, Emmanuel.
Mmh. Oui, les années 70. Oui.
Voilà, années 70, et là, vous nous racontez un petit peu un Maroc. Ça part comme presque comme un livre de voyage, quoi, comme un...
Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est part
non,
comme un livre de voyage, puisque c'est un départ, le début... C'est d'abord pourquoi j'ai écrit ce livre.
Ouais.
C'est parce qu'il y a trois raisons. D'abord parce que je suis retournée au Maroc il y a une quinzaine d'années. J'ai revu la maison de Mohamedia où nous habitions près
ouais,
de Gaza.
Mohamedia, ouais.
Juste à côté de Gaza. Et elle était à l'abandon. J'ai eu du mal à la trouver. Donc j'ai une amie marocaine qui m'a dit ben voilà ton sujet. Puis j'ai laissé traîner. Et puis deuxième chose, j'ai eu un arrêt cardiaque qui était l'objet de mon livre Un coup au cœur. Je suis une survivante, donc tout est bonus pour moi.
Très, très, très vivante, hein, je peux vous dire.
Voilà. Et donc, après, j'ai gardé une certaine vulnérabilité. J'étais déjà sensible, mais là, je suis encore plus. Après, et j'ai eu besoin de me ressourcer dans mon enfance et de m'en inspirer pour écrire ce livre, Tendre Maroc, qui est au fond une forme de consolation, de réconciliation aussi avec la petite fille que j'étais et ma famille, dont surtout ma mère, qui est le personnage intriguant et fascinant du livre.
Qu'on découvre et qu'on suit jusqu'au bout du roman. Alors vous commencez quand même par une phrase, parce que quand j'ai commencé à lire, il ne faut jamais revenir sur les lieux de son enfance, de crainte d'embrouiller le souvenir.
Oui, c'est vrai, il ne faut pas retrouver ces maisons d'enfance, parce qu'on a tout en nous.
Oui, mais vous êtes allé explorer tout ça.
Je l'ai fait, mais pas en réel, je l'ai fait, parce qu'en réel, ce n'était plus la même chose. J'ai dû la recréer, cette atmosphère et cette vie au Maroc que nous avions lorsque je suis partie avec mes parents à 6 ans et mes frères et sœurs. Mon père était directeur d'une usine de textile et nous vivions donc dans une villa avec un immense jardin qui est un personnage du roman, le jardin. Parce que c'est un roman je crois, très sensuel.
À moi immédiat,
avec beaucoup de sensations. Il est écrit non pas comme un livre de souvenirs, mais comme un roman vivant où tout par la mémoire sensorielle, j'ai retrouvé exactement tels qu'ils étaient les instants, les sensations, les odeurs, les saveurs de l'enfance. Et c'est extraordinaire de savoir qu'on a en nous, et il suffit de recréer l'atmosphère, un peu comme fait Proust avec sa Madeleine. Et dans le grenier de notre mémoire, ils surgissent tout d'un coup, tels qu'ils étaient. Et c'est ça que j'ai voulu choper et réécrire, comme des instantanés. Donc on vit cette enfance, je crois, d'une manière très
d'une manière formidable.
Vivante.
Et alors moi, j'ai été très impressionné, je vous le dirai un petit peu, je le dis un petit peu en antenne, parce que j'ai vécu de 6 à 13 ans, non pas au Maroc, en Tunisie. Je suis retourné, j'ai fait exactement comme vous, je suis retourné voir, alors là, les maisons qu'on avait habitées avec les parents et tout, mon père était militaire, et j'ai eu les mêmes impressions, les mêmes ressentis, les mêmes odeurs, le citron, les eucalyptus en Tunisie, les plages, j'ai retrouvé subitement, on va chercher dans sa mémoire, ça revient à une vitesse extraordinaire. Et quand je lisais votre livre, j'étais émerveillé parce que je me suis dit, non, c'est pas possible.
Je crois que c'est le cas de pas mal de lecteurs et lectrices qui me disent la même chose, qui me disent c'est fou, d'âges différents, hein,
d'âge différent,
femmes,
qui
se retrouvent beaucoup à travers non seulement cette enfance-là que beaucoup de personnes ont vécue au Maghreb ou ailleurs, mais aussi l'éducation, le rapport mère-fille, la transmission, l'émancipation, tous ces sujets-là touchent énormément. Et parce qu'en fait, sous cet apparent bonheur, il y a quand même des zones d'ombre. C'est un livre de lumière
et
d'ombre.
Oui, mais quand même. Alors, vous l'appelez roman. Mais moi, j'ai vu à travers ce roman une espèce de biographie.
Non, parce que quand on raconte son passé, c'est jamais tel que c'était. C'est romancé, réinventé, recréé. Et j'ai créé des personnages. Alors, ce que vit Blanche, c'est la mère.
Oui,
une femme qui va au Maroc, elle a une mission. Donc c'est ma mère, oui, c'est vrai, je me suis inspirée d'elle. Alors, elle s'occupe plus des défavorisés. Il y avait un immense bidonville à Mohammedia que de ses enfants. Donc c'est une femme qui est vraiment dévouée aux autres. Et ça lui vient de sa mère, de sa grand-mère. Une espèce de transmission où les femmes ne donnent pas tellement d'amour entre femmes. Elles sont assez distantes. Et Emma, enfin moi-même, j'en ai souffert beaucoup. J'étais toujours en quête d'avoir des miettes d'amour auprès d'elle. J'attendais, je l'accompagnais dans le bidonville. Alors elle me disait, tu vois, moi je m'occupe des autres, c'est formidable. Mais toi, tu es une égoïste quand même, il va falloir que tu te... Voilà, on me taxait de fille qui pense qu'à elle, que j'étais donc... Elle me culpabilisait beaucoup. Et donc, c'est là où il y a toute une intrigue, un fil dans le roman qui est autour de cette relation mère-fille, qui est quand même assez comme une chape, lourde, dont il faut se défaire.
Très, très forte.
Comment est-ce que je m'en suis défait? Je le raconte.
Oui, bien sûr. Mais alors, c'est étonnant parce que j'ai retrouvé dans votre livre alors des images jusqu'à la Simca Ariane.
Ah oui.
Oui,
c'est plein de références.
Bicouleur.
Voilà.
Je dis, c'est pas possible, mais elle parle de la voiture de mon père.
Aïe.
On avait une Simca Ariane à l'époque, c'était une des voitures à l'époque, c'était une belle voiture, quoi. C'était considéré.
À 404.
La 404, exactement, on allait à la plage, la 404, les bouées sur le toit.
Le monoeil qu'on se mettait, les mères se mettaient sur la plage, en plein soleil, on attrapait des coups de soleil.
Et puis on arrivait sur la plage, et alors là, les parents disaient, ah non, on a déjeuné il y a une heure, donc tu vas attendre trois heures avant d'aller dans l'eau.
Ouais, ouais. Ah ouais, exactement,
vous avez dû connaître ça aussi. C'est un livre qui est assez extraordinaire pour tous ceux qui ont vécu, qui connaissent, que ce soit le Maroc, mais enfin le Maghreb en général, on retrouve les mêmes images, les mêmes paysages, les mêmes. J'ai trouvé les descriptions de paysages sont magnifiques.
Oui, l'Atlas en particulier.
L'Atlas en particulier, quand vous grimpez dans l'Atlas.
Ouais, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de touristes, c'était quand même.
C'est
très authentique.
C'est un livre qui m'a complètement sidéré parce que j'avais l'impression de vivre ma vie, quoi. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, c'est magnifique.
Ben merci, ça me touche beaucoup.
C'est magnifique. Les plages, les plaines vertes, la Villa Blanche en pleine lumière, Casablanca, la douane passée, mon père nous serre dans les bras. Enfin, voilà, c'était des choses qu'on connaissait tous à cette époque, dans ces lieux-là, dans ces endroits-là.
Oui, oui. Bah écoutez, ça me fait très plaisir.
Alors, racontez-nous un peu la suite de ce livre, parce que ça, c'est la rentrée dans le livre.
Bah, l'intrigue, c'est ça. Comment j'ai la petite Emma, et donc moi aussi, a pu se libérer un peu, à l'époque, de cette tutelle d'éducation religieuse, morale. Eh bien, d'abord par une histoire d'amour, qui est le fil rouge de ce roman, Interdite, avec un jeune Marocain.
Mais oui.
Qui est dans sa classe déjà. Donc là, ça commence par des jeux d'enfants. Et puis, cette histoire va durer jusqu'à l'adolescence. Et
c'est
ça,
Mehdi,
va être
c'est ça.
Mehdi,
hein.
Une histoire, hein. De
avec
transgression.
Mehdi.
Ça, je l'ai créé, je l'ai développé beaucoup parce que je suis inspirée de plusieurs personnages. Et donc, elle va vivre. Et puis, ça va être interdit par sa mère. Ça va être barré. Qui va lui dire, mais que le jour où elle va dormir en bas de minuit sur la plage avec sa cousine. Voilà, et donc les garçons sont dégoûtants. Enfin, il va y avoir une espèce de. Une manière de l'empêcher, de lui interdire justement le plaisir et le. De
oui, oui, oui. Bah, c'était à l'époque, les parents étaient.
Des garçons,
il
n'y
avait
de
pas la liberté qu'on.
Voilà, ça va être quelque chose d'assez dur. Après, il y a la cousine justement dont on parle, qui est cette voix de. Cette cousine plus délurée, qui est à une complicité formidable. Et puis, il y a l'écriture, la découverte du journal d'Anne Frank, qui est pour moi qui a été une révélation. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai découvert à 10 ans, 11 ans, qu'Anne Frank écrivait dans l'intime, une écriture beaucoup plus profonde, qu'elle se livrait totalement.
Ce journal d'Anne Frank a été à une époque le révélateur pour beaucoup de jeunes notre époque.
Je crois que ça a été crucial. Mais moi, ça a été le début d'un journal que je tiens toujours, qui était un peu la matrice de tous mes romans et qui m'a aidée à me construire. Et puis, il y a eu le professeur formidable, le professeur de français, qui a lu ma première rédaction, devant les élèves en classe. Et alors là, je dois dire, les professeurs, ils ont un rôle clé dans ces cas-là, de vous donner confiance, parce que vraiment, c'est quelque chose pour une petite fille de fabuleux. Et donc, tout ça m'a permis, petit à petit, de trouver des petites voies. Mais à la fin du roman, il y a une histoire d'agression sexuelle qui apparaît comme ça, qui fait que je me suis dit, est-ce que je la garde? Puis en fait, elle était suffisamment bien écrite pour que je la garde.
Il fallait la garder.
Mon critère numéro un, c'est l'écriture.
Oui,
à partir du moment où l'écriture me va, parce que pour moi, c'est l'écriture, c'est la musique qui compte dans un texte, plus que l'histoire, plus que tout. Il y a beaucoup d'histoires, il y en a plein, mais maintenant, pour moi, c'est la qualité, la poésie qui peut émerger d'un texte qui me touche. Quand je lis des romans, et quand je les écris, moi aussi, je les écoute.
Et puis, alors, quand vous les écoutez, il y a beaucoup de références à des chansons dans vos livres.
Voilà.
J'ai retrouvé des chansons formidables. Vive le vent.
Ouais.
Vive le vent, j'en avais pas entendu parler. Vive le vent. Enfin, je ne peux pas vous chanter parce que j'ai pas envie
qu'il pleuve. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Ouais.
J'ai retrouvé des chansons comme ça que je n'avais pas.
Ouais, il y en a plein.
Entendu, écouté.
S'il y a une playlist incroyable.
Vous avez une. C'est remarquable.
Il y a beaucoup de rock. C'est un livre qui pourrait s'appeler
Le
Tendre Mar Rock. Un des critiques qui est là-dessus.
Non, c'est vraiment un livre. Alors, je pense que toutes les personnes qui ont vécu ce que, pardon, je vais m'associer, ce que nous avons vécu dans notre jeunesse, dans ces endroits-là, vont se jeter sur ce livre parce qu'ils vont découvrir vraiment...
Mais les plus jeunes aussi, parce que c'est vraiment...
Non, plus du tout, plus du tout. Plus du tout.
Non, d'accord. Parce que pour eux, c'est les 70s, c'est toutes ces années qu'ils adorent, en fait. Les Beatles, les Stones, les Bee Gees, il y a toute la bande des grands maîtres du
Vous
rock.
Vous savez que les Stones vont faire un nouveau concert?
C'est incroyable, ça.
Incroyable,
les jeunes se remettent au vinyle. Hein.
Les
jeunes se remettent au vinyle.
Oui, ils adorent.
Ouais, ils se remettent au vinyle.
Donc, c'est des mythes, ces chanteurs-là.
Alors, vous étiez à l'école Hersant. On dit Hersant, hein?
Oui.
À l'école Hersant. Alors là, il y avait juifs, musulmans et chrétiens se mélanger, si bien que nous bénéficions de congés de toutes les fêtes religieuses.
Ah, bah, à l'époque, il y avait beaucoup de juifs au Maroc.
Ce qui était vrai, il y avait beaucoup de vacances parce qu'il y avait les fêtes religieuses de chaque religion qui arrivaient. Voilà. Je porte une jupe plissée, des soquettes, je ferme les yeux et je vois les petites repoussées, des soquettes, des petites belles petites chaussures blanches.
Et les jeux, beaucoup. C'est un livre sur la création dans ce jardin. C'est-à-dire, c'est un jardin qui est une scène de théâtre, finalement. Nous jouions, ma sœur est devenue chorégraphe, elle est assez connue, Mathilde Monnier. On faisait des spectacles et tous les jeux, comme on n'était pas sur les tablettes et voilà, on n'avait pas ces ordinateurs, on était complètement livrés à notre imaginaire.
Et il y avait le vélo,
le toit plat sur lequel on montait.
Dans les rayons.
Voilà. Hein? Ah oui, oh là là.
Non, c'est vraiment, on se retrouve dans ce livre, on redécouvre toute une époque, à un moment...
Et on retrouve cette joie de l'enfance, je crois aussi, malgré les tristesses.
Je ne suis pas passéiste, mais je me demande si je ne suis pas un peu nostalgique de cette époque qui était belle, quoi. Il n'y avait pas de... On avait des amis... Moi, je me souviens...
Moi, je ne suis pas, parce que j'aime beaucoup cette époque.
Vous aviez un copain qui s'appelait Mehdi. Moi, j'avais mon copain Chedli, avec qui on partait dans le Djebel, attraper des lézards, des serpents qu'on mettait dans
D'ailleurs,
des bouteilles
d'alcool. Je raconte l'histoire d'un serpent dans le jardin, un serpent qui avait avalé un rat.
Oui, tout à fait.
On voyait ce malheureux rat circuler dans le serpent.
Le serpent se casse.
Parce qu'à un moment, ils sont étouffés par la bête.
Non, c'était...
Et ma mère qui attrapait les serpents comme ça. Elle allait les amener à la pharmacie pour savoir si c'était dans un bocal de formol.
Non, vous êtes monté dans l'Atlas.
Beaucoup. Mon père était très, très, très vadrouilleur.
Alpiniste.
Il crapahutait partout dans l'Atlas. Et on faisait du ski aussi. Et puis
L'Atlas, je rappelle aux gens qui nous écoutent que l'Atlas, les sommets sont à 4000 mètres.
On fait du ski dans l'Atlas.
On ne fait pas que du ski à Chamonix. À l'Atlas, c'est 4000 mètres aussi. Ouais. Quoi.
Et il y avait donc ces Berbères dans l'Atlas, qui sont toujours le peuple de l'Atlas, qui sont des merveilleux avec leurs traditions. Je raconte les moussems de fiancés, comment tous les jeunes de toutes les vallées se retrouvent pour une grande fête. Et là, il y a des tractations avec des échanges de chameaux, de trucs pour marier les filles, comment ça se passait, des fêtes, des fantasias. C'était extraordinaire.
Non, c'est un livre... Alors, vous découvrez aussi Marrakech avec la fameuse place...
Jemaa el-Fna
avec les commerces, qui est toujours très présente pour aller au Maroc de temps en temps. Vous connaissez?
Oui. Oui, j'y suis allée.
Vous aimez bien?
Oui, c'est coloré et riche en senteurs, comme ce que tu disais.
Ouais, c'est
vous.
Non, mon grand-père est né au Maroc, il est resté jusqu'à ses 18 ans, mais moi je n'y ai jamais mis les pieds.
Ouais, il faut y aller.
Ce qui est une honte.
Voilà, il faut y aller, absolument.
Mais oui.
Donc c'est un hommage au Maroc, bien sûr, et puis c'est un livre sur cette.
Alors il y a toute cette histoire, alors il y a votre passion pour Mehdi.
Ouais.
Que vous retrouvez.
Je le retrouve jusqu'à l'adolescence. Ce jeune garçon qui est avec la mèche comme ça, la gourmette.
Oui, les parents sont pas très emballés. Hein.
Bah non, parce que c'est un amour caché qui est totalement interdit. Et qui pour moi, ça m'a toujours fasciné, les mauvais garçons. J'ai toujours été attirée par eux. Les écrivains maudits, enfin voilà, ça c'est dans ma nature de bien aimer.
Et là, vous avez quel âge? C'était
là ça va de 6 ans à l'âge de 14 ans.
14 ans,
ouais. Parce qu'il y a eu deux étés de retour au Maroc. Je raconte tout se passe à Mohamedia, y compris ces deux étés d'adolescence où nous revenions passer les vacances. Où là se passent justement ces flirts, ces booms, ces moments de bonne minuit et puis. le passage à la Merzouga, qui est cet hôtel, ce bel hôtel à Marrakech, où on m'a laissée toute seule. Et là, c'est vraiment amené à travers la construction du roman, ce moment où on, ma mère m'a abandonnée, quelque part. On ne laisse pas une fille de 15 ans qui est toute mignonne dans un hôtel toute seule, ben pensant qu'elle va être protégée, ben même si c'est un palace. Pas protégée du tout. Donc, ce qui est arrivé, est arrivé.
Et vous rentriez en France régulièrement. Tous les ans, vous alliez passer un mois en France. C'était en Alsace.
Chez les grands-parents, oui.
En Alsace, chez les grands-parents. Voilà.
Chez, alors, en Alsace, dans la vallée de la Bruche, du côté de chez mon grand-père, près de Strasbourg. Ou chez mes grands-parents, du côté qui étaient plutôt des intellectuels, au bord de la Seine, à Morsang-sur-Seine. Mon grand-père était un académicien, c'était Jean Gisard, c'était quelqu'un d'assez imposant. Et pourtant, les vacances que je préférais, c'était chez ma grand-mère traditionnelle, où j'avais l'impression d'avoir un pied dans le 19e siècle, avec une vie en autarcie. La ferme, le bois, les... voilà, la fabrique, les jeux.
Morsang, le bord de la Seine, tout ça, non, c'était là?
Oui.
Ça, c'est des endroits-là?
Morsang-sur-Seine.
Morsang-sur-Seine, c'est ça, oui. Donc, vous gardez de cette époque...
Je ne garde pas la nostalgie, parce que ce n'est pas, c'est pas le mot qui me convient, parce que je garde des souvenirs vivants. Donc, une certaine mélancolie, peut-être, mais je garde... Je me suis réconciliée, je crois, avec ma mère, après avoir écrit ce livre, parce que je n'ai jamais été très proche d'elle. Mais là, le fait d'en avoir fait un personnage qui, en même temps, est drôle... Parce qu'elle elle est drôle, elle a ses menus, ses courses, son organisation, tout est planifié, tout est organisé un an à l'avance. Donc c'est un personnage qui sait... Et puis elle donne des cours de morale, donc j'ai retrouvé ses cahiers, j'ai retrouvé ses agendas, son histoire, j'ai compris son histoire avec ma grand-mère, comment ma grand-mère qui était complètement dévouée à son mari, et pourquoi ? Parce qu'elle avait elle-même aussi une histoire. Donc tout ça m'a permis de mieux creuser la, les secrets de famille, les liens de mère-fille, et de... Voilà, de me les approprier, donc de me sentir plus proche, de les comprendre.
Aussi.
Alors, elle avait aussi beaucoup de peur de guerre, ma mère, de la guerre.
Il y avait Jean-Marc aussi.
Jean-Marc, oui, c'est mon frère.
Votre frère, Jean-Marc,
c'est mon frère
avec
dans
qui
le
vous
roman.
Partagez la chambre.
Voilà, quasi jumeaux. On était cinq enfants.
Cinq enfants.
Ouais. J'étais l'aîné, donc c'était...
Une question indiscrète, votre frère est toujours là, il a lu ce livre?
Oui, il a lu. Il m'a dit, écoute, ça m'a fait le plus gros compliment qui ait été fait. Écoute, j'aime beaucoup ton livre, mais je me demande qui ça intéressera d'autre que moi.
Il y avait avec le frère, comme vous l'écrivez, jamais de dispute, jamais de jalousie.
Jamais. Un garçon adorable.
Voilà, toujours.
Adorable. Ma sœur était plus agitée, celle qui est Mathilde Monnier, là, qui est devenue chorégraphe. C'était une... on l'appelait Chnéoula, ce qui veut dire moustique en arabe.
Oui. Et il y en avait, et il y en avait.
J'imagine.
Il y avait des moustiques.
Ça oui, il y avait des moustiques et il y avait autour de la maison, ce jardin était à la fois merveilleux. Et dans ce roman, il y a toujours un danger. Le danger, il est permanent. Il est à l'extérieur, il est les bandes de voyous qui étaient autour, qui tuaient les chats avec des lance-pierres. Donc j'entendais des miaulements atroces sans arrêt, d'où ma phobie des chats. Et donc il y avait cette atmosphère avec ces bandes qui nous regardaient tout le temps, nous les petites filles. Quelque chose de quand même assez dangereux en permanence. Et qui donc, à la fin, donc, est à son maximum. Puisque le danger, il est non seulement là, mais il est, oui. Je le vis. Voilà, c'est donc pour ça que ce livre est à la fois tendre et aussi, il y a des cruels aussi.
Oui, et puis alors vous citez des trucs qui m'ont un peu inspiré. Vos parents vous disaient, ton bonheur ne dépend que de toi, alors essaie de ne jamais te plaindre.
Oui, c'est ça. Oui, il fallait
c'est marrant parce que
ne pas penser à soi. Et la phrase la plus forte, Jean-Paul, c'était « une femme doit s'effacer ». Un jour, j'étais chez un psy, je lui ai dit ça, on me disait dans mon enfance, une femme doit s'effacer. Il m'a dit, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme doit effacer sa sexualité, tout ce qu'elle est, sa personnalité pour... Il en a fallu du chemin pour arriver à...
Ne dites pas ça aujourd'hui à Sylvana Bergonzi. Hein, elle va sortir ses griffes. Non, c'est... Alors, moi je l'ai lu vraiment... comme un roman, mais comme un livre de souvenirs, comme un livre d'ambiance, comme un livre de révélation, quoi. C'est vraiment, et je parlais de Sylvana, et je te remercie de m'avoir remis en contact, je ne sais pas vous appeler, voilà, pour cet ouvrage-là, quoi. Alors, la fin, on ne va pas aller jusqu'au bout, parce que ça devient plus romanesque sur la fin. Comment vous avez pu arriver à traiter à la fois cette partie un peu, je ne sais pas dire autobiographique, mais qui dépend de tout ça, pour arriver à la fin de ce livre avancé.
Vous parlez de ce qui s'est passé à la Merzouga.
Par exemple, oui.
Par exemple.
Oui, je
le dis, je ne l'aurais pas publié si le texte n'avait pas été bon. Et je me suis dit, voilà, c'est juste. Je ne l'aurais pas publié s'il n'y avait pas eu MeToo. Parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça a libéré la parole. Et du coup, je me suis autorisée de dire ce qui était complètement enfoui en moi depuis des années. C'est cette histoire, justement, qui était douloureuse et qui a eu des effets dont je ne me suis pas rendu compte, qui ont été enfouis, qui ont été des traumatismes. Et finalement, ça m'a fait du bien de pouvoir le dire.
Oui.
Voilà, et d'être reconnue. D'avoir que les autres puissent se dire, bon, voilà, elle a pu y aller. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, ah ben, voilà, t'as osé, c'est courageux. C'est courageux et ça fait du bien de l'entendre, de le dire. Oui.
Il y avait des invitations, je passe un peu dans un endroit, des booms, ce qu'on appelait les booms à l'époque.
Oui, alors les booms, c'était vraiment extraordinaire. Ça, c'était vraiment. C'était pas loin de la boom, on peut vivre des choses comme ça.
Oui.
De Sophie Marceau.
Les booms, c'était les surprises parties où on dansait des slow, des rock endiablés.
On s'en souvient.
Oui, quand même.
Ah, bien sûr. Bah, si, j'ai connu les dernières booms. Pas la grande époque, mais les dernières, ouais.
Ça s'appelle autrement aujourd'hui.
Oui, certainement. Mais je ne sais pas si les gamins font autant ça que maintenant.
Non.
Quelle époque, qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment. C'est une période entière, les booms, rien que le mot.
Non, mais les booms à l'époque, c'était. Puis on dansait.
On dansait beaucoup.
On dansait pas à 2 mètres l'un de l'autre en gesticulant. On dansait en lacets, on dansait des rock and roll.
Ouais, ouais.
J'étais un champion du rock and roll quand j'avais 20 ans.
Exactement, oui. Comme Jerry Lewis.
Ah ouais, tout à fait. C'était.
Il y en avait qui duraient longtemps, justement.
Alors vous êtes parti à Mulhouse aussi.
Oui, ben justement, à Mulhouse, il y a eu.
Ouais.
Alors là, Mulhouse, c'est pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a Les années Solex, qui est un roman que j'ai publié chez Héloïse d'Ormesson en 2003, qui raconte justement cette adolescence rebelle, à la fois mes engagements au Secours Rouge, où j'étais Mao, trotskiste, léniniste, enfin tout. Puis, avec envie de partir sur la route de Katmandou, donc avec des foulards indiens, etc. Donc j'ai vécu plein de choses à Mulhouse. Et au fond, Mulhouse, c'est pour moi le symbole de la liberté. J'y vais la semaine prochaine. Et je suis très heureuse de retourner dans cette ville parce que vraiment, c'est une ville qui est très ouverte sur les Vosges et en même temps qui est très accueillante. Et moi, j'ai des souvenirs fantastiques, de grandes libertés que je n'aurais sûrement pas eues à Paris ou dans d'autres villes. Parce qu'il y avait.
Vous gardez de Port Grimaud aussi, parce qu'il y avait Port Grimaud.
Port Grimaud, quand ça a été créé, oui.
Au départ, moi, j'ai connu Port Grimaud quand j'avais 20 ans, 22 ans.
Alors là, pour moi, c'était le grand choc, parce que je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment en robe à smoke, quand ma cousine, elle portait des shorts à les fesses, orange, et elle avait une bande de copains qui sortaient, donc ça a été. En un été, changement absolu.
Changement absolu, ça vous a transformé complètement.
Transféré.
À Port-Grimaud, c'était au tout début avec les canaux, c'était un. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un
c'est
très bel endroit.
C'est un petit Venise en fait.
Un petit Venise, un très bel endroit. C'était. Voilà. J'entends encore le ronronnement de la Paloma.
La Paloma 3
vitesses. Alors, moi, je sais ce que c'est une Paloma parce que j'en avais une.
Ouais.
C'est une mobilette 3 vitesses.
Voilà, exactement.
Et j'avais une Paloma qui fait beaucoup de motos. Je continue
fou,
à faire aujourd'hui. Hein, je fais plein de raids en moto et tout. J'avais une Paloma, une de mes premières mobilettes, 49 cm3. C'était une Paloma. Alors, ma Paloma, j'étais très, très fière. Assez et tout. Et quand je lis votre livre, je dis une Paloma, mais c'est. Il n'y a que vous, il n'y a qu'Emmanuel et moi qui savent aujourd'hui ce qu'est une Paloma. Non,
j'adore les motos, justement, resituer dans de voitures et de motos, ça date bien une époque, c'est référencé. Avec aussi les livres, ils sont très présents, la littérature, et tous les livres que je lisais, en plus j'ai un journal que je tenais, donc j'ai tout en détail, tout gardé. Ah, c'est génial, ça c'est d'une richesse d'avoir ça. Les films que je voyais, les livres que je lisais, j'ai tout noté. Vous vous rendez compte? Génial.
C'est génial. Et moi, là, vous m'avez fait retrouver dans ce livre des pans de ma vie, des passages, des trucs en me disant, tiens, la Paloma, putain, j'ai
beaucoup aimé. Rien que ça vous ouvre, ça vous rappelle plein de choses, bien sûr. Ça fait rêver. Magnifique. De voir un garçon sur sa Paloma. Enfin, moi, j'étais là, je le voyais passer, c'était le voisin. Et j'étais tombée amoureuse de ce garçon sans le connaître, parce qu'il descendait en moto tous les matins.
Alors, j'ai découvert que vous avez aussi, comme moi, raté votre BEPC.
Ah oui, je m'en foutais quoi de mon BEPC.
Moi, j'ai raté mon BEPC. Je crois que je l'ai eu la deuxième fois.
Ouais.
Je vérifie. Mais bon.
Oui, puis c'était des époques où moi, je...
Voilà, puis en mai 68, le bac, je l'ai fait dans des chasseurs alpins parce que j'avais été foutu à l'armée, réquisitionné, je ne sais pas quoi. Et ça ne m'a pas empêché de faire une carrière jusqu'à diriger
exactement.
La Rousse.
Et d'écrire des livres. Il y a des moments dans sa vie. Puis après, on se rattrape. Après, je suis devenu
bon
élève.
Oui, mais bon, voilà.
Alors, quand donc, il ne faut pas dramatiser, quoi. Pour les parents qui ont...
J'ai enseigné un moment le SCP, et puis ils sont aperçus, petite anecdote, ils me demandaient mes diplômes. J'en ai pas. Comment vous n'avez pas de diplôme? Vous enseignez à le SCP, vous n'avez pas de diplôme. Bah, j'ai fait non, mais votre casier est vide, il y a dans votre sac. J'ai pas dit. Non, je n'ai pas de diplôme. Mais vous avez une maîtrise, une licence. Non, je n'ai même pas mon bac. Vous n'avez pas votre bac. Et ça ne m'a pas empêché de faire plein de choses. Quoi,
exactement. Les études ne font pas tout.
Et à l'époque, il y avait 50% qui réussissaient le bac. Et là, aujourd'hui, ils sont...
Cette 90%.
Année, peut-être un peu plus cette année, 99%.
100% de réussite au bac. Oui.
De réussite au bac. Donc voilà, c'est un livre formidable. Alors, il y a des intrigues, il y a des moments de plaisir, on découvre des chansons, on découvre des... vraiment... Pardon ?
Un labyrinthe avec...
Ah oui, un labyrinthe, il y a des tas de choses. Non, j'ai été enthousiasmé par votre... voilà. Et alors, le truc triste, c'est que vous n'avez pas revu Mehdi jusqu'à la fin, peut-être ?
Et oui, c'est comme ça pour différents garçons que j'ai connus à cet âge. Il y a un moment où soit ils disparaissent, ils meurent, ils ont un choc, un accident... Mais c'est mieux, parce que quand on les revoit, là aussi c'est un choc, encore plus grand. Parce que j'en ai revu un, dont j'ai été amoureuse à 17 ans. Oh, j'aurais jamais dû. C'est comme les maisons d'enfance, il ne faut jamais les revoir.
J'ose pas le dire. J'ose pas le dire, moi qui étais sportif, je vais être prétentieux, mais plutôt beau mec, passionné, brillant et tout. Quand j'ai retrouvé de temps en temps... une jeune fille que j'ai connue.
Voilà.
Jean-Paul, tu te souviens de moi? Non.
Non, vous n'y êtes pas. Faut éviter.
Très méchant.
Parfois, vous écrivez des romans, donc ils vous écrivent après. Ils vous disent, voilà, tu te souviens.
Oui.
Non, il faut éviter.
Moi, j'ai retrouvé des tas de gens quand je... intervenait sur avec le père sur question.
Oui, j'ai retrouvé par exemple la nounou qu'on avait, la madame Carrera dont je parle, qui vivait dans le Midi, celle qui faisait baver les escargots, qui avait plein de chats chez elle. Et donc ça, c'est très, c'est à chaque fois une occasion de retrouvailles, un livre et de rencontres comme celle qu'on a aujourd'hui avec vous, Jean-Paul, que nous retrouvons.
Quand je suis repassé
avec
Julien Lepers pour la Rousse où j'intervenais sur question pour un champion. Alors là, j'ai eu des tas de gens. Oui, j'étais avec toi en sixième.
Voilà.
J'étais avec vous, est-ce que je peux te tutoyer?
Et là j'ai retrouvé une amie qui s'appelle Nicole Guerre, qui était en classe quand j'avais 6 ans avec moi, qui m'a contactée, qui habite Toulouse et qui se défonce pour mon livre partout dans toutes les librairies de Toulouse. Elle est géniale. Elle était déjà comme ça, elle s'appelle Guerre, donc elle est...
Voilà. Tendre Maroc, Emmanuel Desboissons, aux éditions
Sylvana, qui
Calman
m'a fait venir
Lévy.
Ici la meilleure attachée de presse de Paris.
On va faire une petite pause musicale, mais vous pouvez continuer à intervenir. On a deux autres auteurs, autrices. On dit autrices maintenant.
Deux talents.
Ouais. Bon, autrices. Deux autres autrices dont on va parler de leur livre. Mais avant, on va faire une petite coupe pause musicale avec une personne qu'on a tous appréciée, Françoise Hardy. Thank you.
l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour, c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient.
Un euro par auditeur, un euro par mois. Un euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec un seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Eh bien voilà, vous avez tous reconnu Françoise Hardy. Donc je rappelle le livre dont on vient de parler, Emmanuel Boisson, Tendre Maroc, aux éditions Calman Lévy. Précipitez-vous chez votre libraire. Il fait partie, avec les livres dont on va encore parler, des livres de l'été. Et c'est une bonne période pour se mettre sur un transat, sur une serviette, et de profiter de ce temps-là pour lire. Mettez un chapeau quand même, il y a beaucoup de soleil. Voilà, alors là je suis avec Sue Berger, La revanche des pelotes de laine. Alors le titre m'a complètement... les pelotes de laine, je voyais ma grand-mère en train de tricoter avec ses aiguilles et tout.
Oui, alors l'héroïne a 23 ans.
Ouais.
Donc du coup, on est un petit peu aux antipodes de l'image de la grand-mère. Ça s'appelle Revanche, peut-être que je peux l'expliquer un petit peu plus tard.
Ah, vous expliquez, expliquez-nous,
je vais l'expliquer, mais je vais d'abord essayer d'expliquer pourquoi j'ai voulu écrire ce livre. C'est un livre à l'ère de l'intelligence artificielle dont vous avez parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est un livre qui prend sa revanche grâce aux faits main, grâce au bon sens. Vous avez parlé aussi des élèves qui n'ont pas de diplôme. Eh bien, c'est un livre sur les élèves qui n'ont pas de diplôme.
Exactement.
Aussi. Puisqu'on a Élise, qui est une jeune femme qui ne connaît pas ses parents, qui part dans la vie avec pas grand-chose, puisqu'elle est issue de l'assistance publique, elle est orpheline. Elle ne connaît donc pas sa mère. Elle a pour tout héritage une petite layette tricotée main. Et à 23 ans, elle vit dans une caravane au camping du Bois de Boulogne. Alors, je précise pour les Parisiens qui ne connaissent pas, parce que je me suis aperçue que beaucoup de Parisiens ne connaissaient pas, le camping du Bois de Boulogne est dans le 16e arrondissement.
Il existe toujours.
Il existe tout à fait. Et donc, elle habite une caravane qu'elle a rachetée à une jeune dame de petite vertu.
Une roulotte. Une roulotte plutôt, hein, parce qu'elle est ancienne, la caravane. Hein.
Voilà, c'est une caravelaire des années 70. Et donc, elle tricote et elle réussit à décrocher un travail de cantinière dans un collège. Et là, elle va changer la vie des collégiens.
Elle va transformer les collégiens, elle va transformer le collège.
Qui vont laisser de côté les tablettes, les portables, et être émerveillés par l'univers qu'elle crée. Alors, c'est un démarrage assez optimiste, mais ça s'appelle Revanche parce que ce n'est pas du goût de tout le monde dans l'établissement, puisqu'on va voir cette salle des professeurs qui est autant couleur aussi. Alors, j'ai enseigné pendant 15 ans, donc je ne suis pas allée chercher très, très loin,
très loin
l'inspiration pour ça. On a des enseignants qui la soutiennent et puis d'autres qui ne la soutiennent pas parce que, justement, elle n'a pas de diplôme. Elle n'a pas de théorie de l'éducation. Elle a juste son bon sens et sa créativité. Donc, ça ne plaît pas. Et elle est renvoyée. Alors après, je raconte pas tout, mais c'est pour ça qu'il y a une revanche.
On va en parler un petit peu. Et alors, vous parlez de l'école, et alors là, vous parlez de tas de choses, des nouveaux mots, par exemple,
le prédicat.
Taper dans une balle, c'est le référentiel bondissant. Poser un instant l'outil scripteur.
Oui, l'outil scripteur qui est donc un stylo, tout simplement.
Voilà.
Je précise que ces termes existent et sont utilisés par les programmes de l'éducation nationale. Hein. Je ne les ai pas inventés.
C'est un outil scripteur
et l'élève est un apprenant.
Non, mais c'est ridicule, enfin je ne sais pas quel mot employer.
Du coup, on a aussi le professeur de sport hein, qui, avec son référentiel rebondissant, il se moque d'ailleurs, lui
oui,
il a beaucoup de recul.
Alors, c'est Olivier, je crois.
Il s'appelle Olivier, il y a beaucoup de recul sur tout ça. Et puis cette jeune femme qui, elle, ne connaît absolument pas tout ça. Elle est donc dans sa cantine, et dans sa cantine, pendant que les inspecteurs se torturent la tête pour essayer de savoir comment faire avancer les élèves, et notamment certains élèves en situation de handicap, car il y a le petit Édouard qui est en situation de handicap, qui est suivi par de nombreuses personnes, Élise, elle, tout simplement, elle trouve des idées dans la cantine pour les initier à la créativité et ça change complètement l'univers des classes.
Oui, parce qu'elle n'est que cantinière.
Oui.
Mais elle trouve plein d'idées de décoration, d'animation.
Alors,
il y a aussi un garçon, vous allez vous retrouver, qui s'appelle Mehdi.
Ah oui.
Qui s'appelle Mehdi dans le livre, qui est en 6e 5.
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs en fait univers puisqu'on est à Nanterre.
Ouais.
C'est un collège de Nanterre. Alors, je n'ai pas pris l'appellation la plus courante en France, c'est Jean Moulin. Donc, j'ai pris le collège Jean Moulin, mais il n'y a pas de collège Jean Moulin à Nanterre. Hein. Je n'ai pas voulu froisser qui que ce soit.
Alors, je vais vous faire une confidence parce que je lis et des fois, moi, j'habite Neuilly, Nanterre à côté. Je me dis collège Jean Moulin. Nanterre. Je suis allé voir sur Internet et j'ai pas trouvé.
Non, c'était volontaire de ma part. Alors en fait, ce collège est donc source de mon inspiration des nombreux établissements que j'ai dans lesquels j'ai officié en tant que professeur de lettres. Et donc le carrelage un peu pisseux avec les vitres qui sont toujours sales. Qui sont parfois même en plexiglas et non pas en verre, etc. La cantine qui sent l'eau de vaisselle mélangée à l'odeur des salsifis et les nouilles à l'eau. Bah, je pense que si vous avez été à la cantine, on l'a tous un petit peu vécu.
On a connu ça.
On a connu ça. Et donc, elle réussit à rendre poétique même les salsifis dégueulasses et les coquillettes qui flottent. Ça finit par amuser les élèves.
Alors, Élise s'offre le luxe de vivre au camping toute l'année, dans sa roulotte, dans sa caravane. Elle occupait l'emplacement numéro 83, auquel
oui.
Elle tenait beaucoup.
Alors, j'y tiens beaucoup aussi.
Oui, voilà.
C'est extrêmement précis.
C'est pour ça que je vous en parle.
Alors, ce roman n'est absolument pas autobiographique, mais par contre, il y a une petite touche particulière. C'est que, alors moi, je n'ai pas vécu du tout au Maroc. Hein, je suis auvergnate et je suis originaire du Puy-en-Velay, dont je parle après, on en parlera. Et en fait, donc Puy-en-Velay est village à côté du Puy-en-Velay. Donc, nos parents souhaitaient nous ouvrir sur le monde. Et donc, comment faire pour ouvrir sur le monde quand on vient de la France ultra profonde? Eh bien, on prenait la R16. Alors là, c'était pas la Paloma, c'était la R16.
La Renault
R16. RCS TX. Et,
RCS TX, la dernière modèle.
On accrochait la caravelle.
Vitesse au volant.
Voilà, tout à fait. Qui chauffait dans les côtes. Et on devait mettre le radiateur pour qu'elle ne chauffe pas. Et donc, on attelait la caravelle. Et à Noël, c'est ça qui est particulier, à Noël, nous nous rendions à Paris au camping du Bois de Boulogne. Donc, j'ai pour souvenir cet emplacement. Le bruit de l'écluse, parce qu'il y a un bruit d'eau qui est particulier. Oui. Le camping du Bois de Boulogne, vous pouvez aller le visiter. C'est un univers particulièrement vert et fleuri. Et donc, moi, je l'ai beaucoup fréquenté quand j'étais jeune. Magnifique. Ça m'a donné le goût du trois fois rien, qu'Élise a aussi, puisqu'on était à Noël. À Noël, on n'avait pas de cadeau. On avait vraiment trois bouts de ficelle. Mais on avait ce cadeau-là, c'est-à-dire les Champs-Élysées à Noël. Et cette caravane avec qui fumait, hein, parce qu'on avait on avait froid, donc on actionnait le chauffage sous la caravane. Et voilà. Et donc.
Depuis Angoulême, vous y retournez régulièrement?
Ah oui, tout à fait. Mes parents y sont toujours.
C'est la semaine dernière parce que j'ai fait à moto tout le Massif Central. Je suis rentré par le
Ah bon? Oui. Et tout. Alors
à
pour
moto?
Oui, avec deux copains. On a fait tout le de la Sarlat. On est allé à l'Aïole. On est descendu plus bas. Je fais beaucoup de.
Alors, le Puy-en-Velay intervient dans l'histoire pour deux raisons. Je ne sais pas si vous avez vu les, parce qu'il y a des fils, en fait, directeurs qui sous-tendent tout le récit. Puisque donc, Élise, alors, elle a un côté joyeux. Elle rend les autres optimistes, mais elle a un côté également extrêmement nostalgique. Et il y a une tristesse au fond d'elle, hein, puisqu'elle ne connaît pas ses parents. Et donc, sur cette petite layette, dans une des familles d'accueil, dans une tour de Nanterre, les Tours Nuages, y a une vieille dame qui, elle, est originaire du Puy et qui s'aperçoit que sur cette layette, il y a un col en dentelle qui est fait en dentelle du Puy. Donc, ça lui donne un indice de ses potentielles origines. Mmh. Et donc, du coup, elle se met à se passionner pour la dentelle. Elle va à la bibliothèque alors qu'elle ne lit pas. Elle prend dans la bibliothèque un livre sur les volcans et... elle arrache discrètement la page d'une dentelière et elle se prête à imaginer que sa mère pourrait être une dentelière du Puy. Alors c'est un petit peu c'est pas anachronique parce que elle va aller rechercher, mais elle sait au fond d'elle qu'elle peut pas vraiment être dentelière parce que les dentelières n'existent plus vraiment au Puy, sauf pour le folklore, en fait. On les voit à la montée de la cathédrale et donc elle se passionne pour ça. Et on a en contrepoint, donc cet enfant qui n'a donc jamais été adopté, et puis ce petit Édouard qui lui est adopté, mais qui a donc des traits autistiques et qui est malvoyant aussi. Et lui, en fait, donc comme il est malvoyant, il est repoussé des autres élèves. Elle a réussi à l'intégrer grâce au fil donc de ses bouts de laine, puisque avec ses doigts. Grâce à sa tactilité, elle va réussir à l'intégrer dans la cantine pour qu'il ne mange pas un petit peu comme un animal.
Alors on va reparler d'Edouard parce qu'il y a eu un travail formidable et une évolution extraordinaire.
Oui.
Là, il y a un passage qui m'a beaucoup plu, c'est la roulotte d'Élise.
Oui.
La roulotte d'Élise était un vieux modèle caravelaire des années 70 qui avait presque trois fois son âge. Mais elle était confortable, le petit radiateur du haut gaz était en bon état, le toit ne fuyait pas, le sol était étanche. Élise l'avait acheté pour une bouchée de pain à une dame du Bois de Boulogne qui prenait sa retraite. Elle avait arraché les tentures de satin rose, les housses en velours pourpre et le coffrage doré qui recouvrait la cuisine. La caravane, on revoit la caravane de l'époque, quoi. Les caravanes qui étaient accrochées derrière les R16 ou les voitures.
Et on a
très bien décrit.
Les odeurs aussi du camping avec les cyclistes qui passent pour aller chercher leur pain. On est dans un univers complètement hors du temps, mais à Paris. C'est exactement ce que je ressentais quand j'étais petite.
À cette époque de l'année, les touristes ne se bousculaient pas. Elle mit de l'eau à chauffer pour un thé, s'installa sur une des banquettes et ouvrit religieusement une vieille boîte de chaussures taille 38. Alors là où il se passe quelque chose, parce que dans cette boîte de chaussures, il y avait quoi ?
Eh bien, cette layette qu'elle transporte dans ses lits de passage.
Ouais.
Je les appelle comme ça. En fait, c'est toutes ces maisons qu'elle a fréquentées. D'être adulte, puisqu'elle était en famille d'accueil. Et donc, elle transporte précautionneusement cette boîte qui est son seul souvenir.
Alors, cette cantinière, elle va être extraordinaire parce qu'elle va changer l'état d'esprit du collège, de l'école en tout cas.
Du collège.
Du collège, elle va changer l'état d'esprit. Et là, elle va... elle a trouvé le matou. C'est là qu'elle trouve le matou.
Ah non, le matou, non. Le petit chat.
Le petit chat.
Non, le petit chat, il est dans le camping.
Il est dans le camping, c'est ça. Camping.
D'ailleurs, elle l'appelle Boissy.
Boissy.
Comme sa boîte à chaussures.
Voilà.
Parce que la boîte
elle
avait
baptisé Boissy, le nom était un peu étrange, mais il était inscrit sur la boîte et taille 38, ou croûte de cuir, eût été bien pire.
Oui, elle n'aurait pas pu l'appeler taille 38 ou croûte de cuir quand même. Donc elle l'a appelé Voici. Et c'est son seul compagnon. Il passe, il monte sur la flèche de la caravane, il monte sur la bouteille de gaz et il vient la voir. C'est à peu près le seul luxe qu'elle s'autorise parce que le gérant du camping lui a interdit de mettre des géraniums, etc. Elle doit passer pour une touriste. Elle doit être prête à enlever les béquilles de sa caravane à tout moment. Et donc, elle regonfle les pneus pour faire croire qu'elle est...
Qu'elle est toujours là, qu'elle, voilà. qu'elle existe et qu'elle est là.
En vérité, bah, elle nettoie les toilettes, hein, concrètement.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Et alors là, il y a une autre personnalité, c'est Mohamed.
Oui. Alors Mohamed, bah, il est également, il balaye dans le camping, il est un peu son seul ami, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Donc il est
la présence joyeuse de Mohamed, c'est un gars joyeux, c'est un
il
gars...
Il est joyeux, taciturne, ouais, ouais. Il la protège aussi, il fait attention...
Il la réconforte,
il a envie qu'elle soit bien, et il va l'aider quand elle est renvoyée du collège, c'est lui qui va la soutenir.
Et donc, elle a pu rester dans le camping.
Elle a réussi à rester dans le camping, effectivement.
Alors, l'école, alors là, elle a transformé littéralement parce qu'elle était cantinière.
Oui.
Elle faisait des plats.
Alors, au départ, c'est une jeune femme qui est lente, qui est un petit peu rêveuse. Et donc, on l'avait mise à l'ouverture des plats. Et donc, c'est pas de la cuisine. Hein, donc, elle ouvre les plats en aluminium à toute allure. Et puis, en fait, le directeur de la cantine, il s'aperçoit qu'elle a un bon feeling avec les différents enfants. Et donc, il la met en frontal avec les enfants. Et donc, c'est dans ce contact avec les enfants qu'elle réussit petit à petit à faire ce que vont appeler les enfants la cantine d'Élise. C'est-à-dire que ça ne s'appelle plus la cantine du collège Jean Moulin. C'est vraiment la cantine d'Élise, on y va. Comme au resto,
alors que
ce qui est à manger est dégueulasse. Mais par contre, on attend le prochain spectacle qu'elle va proposer en toute discrétion. Alors, elle organise des concours de numéros de fond de verre. Elle fête les anniversaires des enfants avec trois fois rien, puisqu'elle tricote à toute allure des petits porte-clés, des petites choses à...
Oui, parce qu'elle a découvert le tricotage, il faut le dire aussi, parce que...
Ah bah oui, puisque... Elle a découvert, c'est que depuis toujours, elle tricote grâce à cette liette qui lui a donné cette passion.
Oui.
Et donc au final, elle est un petit peu à côté... du haut de ses 23 ans, mais en même temps, eh ben, les enfants, les jeunes, ils ont envie d'être à la mode. Et donc, même ceux qui ne voulaient plus aller à la cantine, ben, comme c'est the place to be, eh ben, ils y retournent pour décrocher le petit porte-clés et les petites choses qu'elle propose, parce qu'il faut l'avoir sur son cartable. Il faut, en fait, être au courant de ce qui se passe dans cette cantine. Donc, il y a un côté très joyeux, mais qui va venir être cassé, justement, par ce renvoi.
Il y a une personne aussi qui est Madame Fayolle.
Alors, Madame Fayolle, c'est pas la gentille.
Mais c'est pas la gentille,
c'est
justement,
pas la gentille.
C'est pour ça, parce qu'elle a...
Oui.
Son chignon sur la tête à la Brigitte Bardot.
Oui, alors...
Les descriptions dans le livre sont...
Oui, alors Madame Fayolle, là, vous retournez en arrière, puisqu'il y a des flashbacks sur son enfance.
Ouais.
Et donc, vous êtes... elle a 14 ans. Et au début, c'est une dame qui est extrêmement stricte, parce qu'en fait, elle fait partie de ces Auvergnats qui sont montés à Paris. Elle tenait un bar... Et en fait, dans la description que j'ai voulu donner, elle est au rez-de-chaussée des tournuages, autour des tournuages à Nanterre. Elle tricote, mais en fait, Élise ne voit pas ses mains. Elle ne voit que ce portrait avec ce chignon à la Brigitte Bardot qui monte.
Voilà. La tête, hein.
Et elle s'approche, elle s'aperçoit que cette dame tricote. Et alors, en fait, c'est elle qui va l'initier donc à la précision du tricot, mais avec une certaine raideur et...
Oui, parce qu'elle savait qu'Élise n'avait pas de parents, qu'elle était...
Elle est au courant, parce qu'elle est au courant de tout.
Elle est informée
de tout. Elle est au courant de tout, elle récupère les colis des copropriétaires, etc. Elle est au courant de tout, mais elle va être un peu dure avec elle, mais elle reste avec Mohamed, ses deux piliers, en fait, qui vont l'aider dans la suite de sa vie, puisque c'est aussi grâce à elle qu'elle découvre le puits.
Et elle va transformer l'école.
Elle va transformer l'école et ensuite, il y a un personnage qu'il faut quand même essayer de... dont il faut parler, c'est Édouard, donc ce petit enfant qui est malvoyant.
Édouard, qui est trisomique et qui est...
Alors, il n'est pas trisomique.
Pas trisomique,
non, du tout. Il a des traits autistiques et il est malvoyant et donc il a d'énormes difficultés.
Ah oui, c'est ça.
Il a été adopté, mais ça, en fait, sa mère adoptive est partie... suite aux difficultés en fait de cet enfant, et donc il est élevé seul par son père dans un immeuble chic de Neuilly-sur-Seine. Son père fait ce qu'il peut, mais il essaye de... Il croit beaucoup aux grandes théories de l'éducation. Donc, il espère que son fils ait le bac, etc. Et en fait, il a tout faux. Il ne comprend pas que c'est en partant par le manuel, par le contact avec les objets, avec le fait main, que son fils va y arriver. Et Élise, elle a compris ça. Et elle l'initie à la dentelle du puits. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au puits envelé.
Alors, il y a un moment qui est émouvant. C'est quand elle va à la mairie du 17e chercher un peu ses origines, chercher... Oui. On lui remet une enveloppe.
Alors ça, c'est un petit flashback de ses 18 ans, parce qu'effectivement, à l'âge de 18 ans, on a le droit d'aller voir si notre mère nous a laissé quelque chose. Et là, en fait, elle trouve un petit message. C'est ce que...
Voilà, qui est là, que je peux vous lire, qui est « J'ai pas pu faire autrement, désolé, je te souhaite une bonne vie dans un monde enchanté. PS, as-tu bien reçu mon tricot ?»
Voilà. Et alors, en fait, Élise, à chaque fois... Au lieu de se dire, bah, c'est affreux, j'ai rien en fait, je suis une pauvre miséreuse, elle va partir à chaque fois des seules choses qui lui ont été données. C'est-à-dire qu'elle estime que son héritage est suffisant. Et donc, le mot « le monde enchanté », elle le prend vraiment dans toute son ampleur. Et c'est pour ça qu'elle veut créer un monde enchanté autour d'elle.
Oui, oui. Alors, Édouard, on revient sur Édouard. Alors, Édouard, il est malvoyant, oui. Là. Et elle va complètement le transformer. Alors qu'au début, il est mal accueilli dans le collège.
Il est mal accueilli.
Les élèves se moquent de lui.
Donc, il mange de façon un petit peu différemment des autres.
Oui,
il ne parle quasi pas. Il dit « ça » pour lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de dire « je ».
Ouais.
Petit à petit, en fait, elle l'intègre. Parce qu'en fait, les autres vont réaliser qu'il a des talents que eux n'ont pas. Donc, c'est ce lien qu'elle va tisser qui va être extrêmement, extrêmement puissant avec ce petit enfant. Parce qu'en fait, ce sont deux cabossés de la vie, deux abandonnés, adoptés.
D'autant plus qu'il va arriver en pleine année scolaire. Il ne va pas arriver au début de l'année scolaire. Son père va le changer de...
Oui, alors ça, c'est ce que j'ai beaucoup vu aussi en tant qu'enseignante.
Vous avez connu ça ?
Oui, tout à fait. Il est en classe Ulysse. Alors, les classes Ulysse, le principe, c'est qu'il faut que l'enfant, pour être intégré, suive au moins un cours... dans une classe normale. Et sinon, il est en classe à part. Et le problème d'Edouard, c'est qu'en fait, petit à petit, on s'aperçoit qu'il n'est pas capable de suivre un cours normal.
Un cours normal, oui.
Et donc, du coup, son père a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'il est sans arrêt renvoyé des établissements parce que les conseils se réunissent et disent il n'a pas suivi un cursus normal, donc ça va être les établissements pour les élèves en situation de grand handicap. Donc il y a une forme d'injustice à ce moment-là. Et le père, donc William, le père d'Edouard, est au désespoir pour cette situation parce qu'il veut absolument lui éviter la maison pour handicapés.
Mais bien sûr.
Parce que pour lui, pour son ex-femme, etc., c'est une honte absolue.
C'est un échec total.
C'est un échec total. Oui, oui. Et la mère adoptive rêvait pour lui de grandes études. Elle avait créé la chambre idéale de l'enfant idéal et elle n'a pas du tout l'enfant idéal face à elle.
Alors, il y a Ryan qui intervient aussi.
Oui. Alors, Ryan, là, c'est dans la classe, la fameuse 6e 5, qu'on voit qui est haute en couleur. Alors, c'est un élève qui, j'en parlais tout à l'heure, il ne veut pas aller à la cantine au départ. Puis après, en fait, comme il s'aperçoit que c'est stylé d'aller à la cantine, il accepte d'y aller parce que sinon, en fait, il s'aperçoit qu'il est en décalage par rapport aux autres qui parlent d'événements qui se sont passés dans la cantine. Et sa mère est aux anges parce qu'enfin, elle se débarrasse de son fils qui ne voulait plus, qui rentrait déjeuner, en fait, elle n'en pouvait plus. Et donc, Sainte Élise pour ça.
Oui, ouais, tout à fait. Et donc, il va s'asseoir à la table des bouts de laine.
La table des bouts de laine, alors c'est la table justement du petit Édouard. Et au début, cette table des bouts de laine, il est complètement isolé, il mange seul. Et petit à petit, en fait, cette table est peuplée par les élèves qui petit à petit l'intègrent.
Voilà, et jusqu'au moment où les élèves se disputent carrément pour avoir la chance d'être installés à côté d'Édouard.
Voilà,
à la table
c'est ça,
des bouts
c'est-à-dire
de
qu'elle retourne complètement la situation. Elle
retourne la situation totalement.
Oui. Alors... la notion de revanche, elle est présente tout au long du livre, puisque je voulais vraiment écrire un livre de revanche sur le fait main, sur le bon sens, sur les pieds sur terre, contrairement à ce qu'on voit et on entend actuellement.
Alors, il y a le rôle aussi d'Olivier, du professeur de gym, là,
oui.
qui est très, très présent, qui est très actif.
Oui. Alors, Olivier, il a pour intérêt, en tant que personnage, de mettre un peu de fun dans la,
ouais.
dans la salle des professeurs. Avec, il est un petit peu, il est parmi les seuls à réussir à rentrer un petit peu dedans Madame Richard, donc le professeur d'histoire qui est extrêmement guindé et quand elle campe dans ses idées très précises, et c'est elle d'ailleurs qui va être à l'origine de du renvoi d'Élise. Et lui, voilà,
il booste,
il essaye de la, comme on dit aujourd'hui, la booster, ouais. avec son côté un petit peu fun et ses ballons sur le dos. Il arrive et il met les pieds dans le plat.
C'est un livre magnifique qui se lit à une vitesse folle parce qu'on se demande ce que va devenir ce petit Édouard.
Oui, alors je ne vous le dirai pas.
Hein, je ne le dirai pas non plus. On va vous donner la fin. Il faut que vous trouviez le livre et vous allez découvrir la fin. Voilà, il va avoir. On ne va pas le dire.
Et alors je voulais aussi parler peut-être un petit peu du Puy-en-Velay.
Oui,
qui
alors
a
bien sûr.
Une énorme place.
Oui, oui, tout à fait.
Puisque Élise et Édouard se retrouvent au Puy pour la dentelle, pour à la fois la recherche de la maman et l'évolution d'Édouard, qui donc s'initie à la dentelle au carreau. Alors pour les auditeurs, c'est peut-être pas simple, la dentelle au carreau. C'est une dentelle qui se pratique sur un gros coussin avec des fuseaux qui s'entrecroisent. Et j'ai entendu toute mon enfance cette mélodie en fait des fuseaux, parce que c'est une dentelle qui est extrêmement chantante, puisque les fuseaux sont croisés à toute allure et on entend le buis qui se croise rapidement et qui forme une musicalité. Et je trouvais que c'était tout à fait adapté à un enfant justement malvoyant, parce qu'en fait, avec les cartons qui sont posés sur le coussin, ce sont des cartons de patron en fait, qui sont formés par des points, un petit peu comme du braille, et vous y piquez des aiguilles, vous entrefilez les fils, et vous obtenez cette dentelle qui sort de façon un petit peu... linéaire, puisque c'est une dentelle qui est très géométrique.
Ça existe toujours au
Oui,
Puy?
Tout à fait. Alors, au Puy, vous avez...
C'est la semaine dernière, de la j'ai cathédrale. Pas mis ça, c'est pas possible.
À la montée de la cathédrale, vous avez une dentelière qui pratique toujours la dentelle du Puy. Alors, ma grand-mère faisait du crochet, elle était couturière, et j'ai baigné dans ce...
Alors, il y a un moment aussi qui est intéressant dans mon livre, c'est le rectorat pardon, qui s'intéresse au collège Jean Moulin.
Oui.
Parce qu'il se trouve que dans cette région, dans cette zone qui est un peu, je n'ose pas dire malfamée, mais enfin qui est un peu curieuse.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le collège de Nanterre se met à avoir des résultats plutôt bons.
Plutôt bons, oui.
Notamment en mathématiques, etc. Et donc du coup, oulala, il faut vite faire des statistiques. Et
donc il y a une délégation de l'académie qui débarque en salle des professeurs pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment.
Voilà, et alors ils échafaudent tout un tas de choses. Et alors moi je les ai vus en Seine-Saint-Denis notamment débouler les inspecteurs avec leurs grandes théories. Et donc je me suis amusée à les dépeindre exactement comme je l'avais ressenti moi en tant qu'enseignante, peut-être plus proche du terrain que les inspecteurs.
Alors il y a un moment où il y a un truc un peu, on peut le dire, c'est Élise qui va être licenciée.
Oui. Alors c'est un moment qui est dur, parce qu'elle avait l'impression d'avoir trouvé une place, elle avait l'impression d'avoir été adoptée, d'être chez elle.
Oui, vraiment, de faire partie de la famille, quoi. Elle était.
Voilà. Elle est plus la laissée pour compte dans sa caravane, elle est vraiment là. Et là, en fait, le couperet tombe, et pour elle, c'est plus qu'un travail, en fait. C'est vraiment parce qu'elle a un côté...
Pourquoi est-ce qu'elle est licenciée?
Elle est licenciée parce que, en fait, suite à l'inspection, qui est faite, et à la dénonciation de certains enseignants, comme ce n'est pas dans le protocole...
Elle n'est pas dans les normes, elle n'a pas le droit de faire ça, elle n'a pas le droit de s'occuper des enfants, voilà, elle n'a pas le droit de...
Le tricot aussi,
c'est tout le problème de notre pays aujourd'hui, où on est sur des trucs,
dans
des règles qui sont absurdes.
Et puis c'est complètement absurde, parce qu'elle aide un enfant qui est en situation de difficulté, et on lui dit, mais non, vous n'êtes pas habilité à... Et donc, du coup, officiellement, c'est un licenciement plus ou moins économique, mais en vérité, la vérité, c'est qu'elle dérange.
Elle dérange.
Voilà. Alors, on va pas dire la fin, donner la fin du livre. Je rappelle qu'Élise a 23 ans, pas d'argent, pas de famille, pas de diplôme, abandonnée à la naissance. Elle a pour seul trésor une boîte de chaussures contenant une laye à tricoter ornée de dentelle du Puy. Et elle va vivre une aventure extraordinaire dans votre livre La revanche des pelotes de laine, Sue Berger. Une petite merveille. Voilà,
merci
on va
beaucoup.
Faire une petite pause musicale et puis on va enchaîner. on va enchaîner avec vous pour parler de cette magnifique préface que vous avez réalisée sur, sur les...
Francis Jam, ma fille Bernadette. Jam.
Sur Jam, j'arrive pas à voilà. dire Jam, c'est... Je sais pas pourquoi c'est Jam Bond, Jam Bill, mais...
Ça n'est jamais que le bon vieux Francis.
Eh bien voilà, ben vous avez tous reconnu cette magnifique chanson qui vient illustrer notre émission. Voilà, alors là je suis avec Emma Becker. Alors Emma Becker, elle va nous dire un petit peu parce qu'elle est écrivain, elle a écrit 7 romans, elle est journaliste, elle fait pas beaucoup de choses. Et elle s'est passionnée pour un homme qui s'appelle Francis Jam, pour ce livre « Ma fille Bernadette » dont elle a fait une brillante préface.
Merci.
Parlez-moi un peu de vous,
Alors moi, bah écoutez, moi habituellement je préface rien et je n'écris absolument pas sur la poésie et je ne m'intéresse pas trop, je dois dire, aux écrivains du 19e à tendance catholique. Simplement, Francis Jam est un poète que j'ai rencontré quand j'étais assez jeune. Je le raconte dans la préface. Ouais. Moi, je fais de l'autofiction, donc j'ai tendance à me servir de ce qui m'arrive dans ma vie pour en faire des romans. Et c'est vrai que l'axe n'a rien à voir avec Francis Jam. C'est plutôt la sexualité, les rapports entre les hommes et les femmes, l'érotisme. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens vous présenter aujourd'hui. Mais dans toute vie de pornographe, il y a des moments où on peut...
Vous vous baptisez pornographe carrément?
Bon, écoutez, il n'y en a pas tant que ça, alors pourquoi pas? Je prends le titre
contre,
tant qu'il est disponible.
Je ne suis pas contre du tout. Hein.
Et
vous viendrez me parler de votre prochain livre très vite. Hein.
Alors écoutez, il ne faut pas me le dire deux fois.
J'ai demandé mon téléphone même, ou demander à Sylvana.
Mais en attendant, comme je le disais, même quand on écrit des choses radicalement différentes, on se rappelle toujours ses premières amours, et en l'occurrence Francis Jam est un poète que j'ai connu vers l'âge de 12-13 ans et que j'ai avec cette poésie qui s'appelait La prière pour aller au paradis avec les ânes. Alors Francis Jam est un écrivain qui est né en 1868. Alors il a hanté le Béarn et le Pays basque, et c'est vraiment sa région, c'est-à-dire que avant de se convertir au catholicisme en 1905 avec l'aide de son ami Claudel, ouais, c'est un poète de la nature. C'est-à-dire que vous ouvrez un bouquin de Francis Jam, un de ses nombreux recueils de poésie, c'est exactement comme se promener dans un tableau. C'est-à-dire que c'est un chantre de la nature, des fleurs, des toutes petites choses qu'on s'engrouillait dans l'herbe, dans les arbres. C'est un contemplateur qui se promène comme ça dans la campagne et qui essaye d'en faire la description la plus exhaustive possible. Donc ce sont des poésies d'une grande... Alors on pourrait dire que c'est naïf, mais ça ne l'est absolument pas. C'est juste très pur, très simple, à la fois très sobre et très ouvragé, d'une grande délicatesse. Et c'est un écrivain qui a été assez pris au sérieux par ses contemporains, mais qui ne faisait pas du tout partie de la scène littéraire de l'époque. C'est-à-dire que lui, il vivait dans sa petite campagne. Il avait des amis qui étaient Gide, André de Régnier, Claudel. Mallarmé l'estimait beaucoup, mais il se tenait à l'égard de tous ses copinages, de toutes ses écoles de littérature. Il a d'ailleurs écrit un manifeste qui s'appelait le manifeste du jamisme, où il rejette complètement cette idée d'appartenir à une école littéraire, où finalement chaque écrivain fonde une école et se passe à lui-même la brosse à reluire avec tous ses suiveurs. Donc le principe de Jam, c'est que il n'y a pas d'école littéraire, il n'y a que la vérité. Alors pour lui, c'est la vérité de Dieu. Mais on pourrait considérer que même un écrivain sans Dieu, comme c'est mon cas, doit avoir à cœur effectivement d'atteindre la vérité des choses dans leur description la plus précise, la plus fleurie, la plus ouvragée possible. Donc Francis Jam, qu'on a tous plus ou moins feuilleté à l'école, hein, je pense à la prière pour aller au paradis avec les ânes, mais je pense à l'âne si doux, enfin, Sue, ça doit vous dire quelque chose, Francis Jam.
L'âne
voilà,
si doux, exactement. Marchant le long des houes.
Oh exactement.
Bravo.
Et on l'oublie un petit peu. Et moi, cette poésie, cette prière pour aller au paradis avec les ânes, elle m'est restée en tête depuis le moment où je l'ai lue jusqu'à encore aujourd'hui. C'est-à-dire, je la connais absolument par cœur. Et à un moment, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce bon Francis Jam? Il n'a pas pu écrire que sur les ânes, qui sont des bêtes merveilleuses, mais enfin quand même, on vient à bout assez rapidement de l'âne. Et me penchant sur sa bibliographie, je me suis aperçue qu'il y avait, comme ça, au milieu de la poésie et des pièces de théâtre, un tout petit livre qui s'appelait « Ma fille Bernadette », et qui m'a tout de suite interpellée, parce que, ayant deux enfants encore petits, pour moi, le récit de ce que c'est que la maternité, la charge de petites âmes qui dépendent entièrement de vous, ce miracle et cette malédiction d'être soudain investi d'une si grande responsabilité qui se rapproche presque du rôle de Dieu, tout ça m'a beaucoup intéressé. Donc
vous dites dans votre préface d'ailleurs,
allez-y.
Une toute petite seconde, vous dites « Ma fille Bernadette, biographie d'une révolution intime et familiale, comme murmurée au milieu du grand et noble raffut des poèmes, se lit comme une caresse, se vit comme une promenade dans une toile de Bonnard, se savoure comme l'assurance que Dieu... s'il existe, incarne parfois dans le regard et dans le cœur d'un jeune père ivre d'amour en charge d'une petite âme. »
Exactement.
Très, très beau.
Ah bah écoutez, merci beaucoup.
Voilà.
Donc j'essaye effectivement, je tombe sur ce petit livre qu'on peut résumer de façon très très simple. Sur à peu près une centaine de pages, Francis Jam, en 1908, sa première fille vient de naître, il a 40 ans. Et cet homme qui a été toute sa vie torturé par les femmes, tombant amoureux de femmes qu'il ne reverrait jamais. Enfin voilà, c'est un hypersensible que tout peut faire pleurer, les fleurs, les femmes, absolument tout. Brusquement, après cette grande révolution du catholicisme, vit cette révolution encore plus grande qui est celle de l'apparition d'un enfant dans son foyer. Et il décrit comme ça des moments de sa vie de jeune père, des moments de la vie de Bernadette qui commence à peine à éclore. Et il lui parle effectivement de Dieu, mais il lui parle de Dieu comme on a pu, me parler à moi, venant d'une famille pas très très catholique, enfin vaguement quoi, du bout des doigts, ouais, comme on l'est tous en France malheureusement. Ouais. C'est-à-dire qu'on me parlait de Dieu comme d'une espèce de créature un peu que l'on peut trouver absolument partout. Finalement, ce que raconte Francis Jammes, c'est moins, à mon sens, de la liturgie, enfin c'est moins du catholicisme, qu'un espèce d'animisme chrétien où Dieu finalement se trouve absolument partout. Alors Dieu se trouve dans l'enfant qui naît, Dieu se trouve dans la nature, se trouve dans la mère qui donne le sein à son enfant. Et finalement, ce livre, même si on n'est pas catholique et qu'on est comme moi vraiment dépourvu de toute forme de religion, peut se lire exactement comme le Cantique des Cantiques. C'est-à-dire que le Cantique des Cantiques, si vous voulez lire un chant d'amour à Dieu ou à Israël, vous pouvez. En revanche, vous pouvez également le lire comme un texte érotique d'un homme parlant à sa fiancée et d'une fiancée parlant à... C'est-à-dire que Dieu, dans ce texte-là, on peut en faire, à mon sens, absolument ce qu'on veut. Et je crois qu'un parent qui vient comme ça d'accueillir un enfant est plus proche que jamais de se mettre à croire, dans le sens où tout vous paraît brusquement un bouleversement, un miracle. Le fait même que votre enfant se réveille le matin, enfin n'importe quelle jeune mère ou jeune père comprendra ce que c'est que de passer une nuit à veiller son enfant malade. Et le jour revient et brusquement, ça y est, encore un nouveau jour. Enfin, tout ça a des allures de miracle qui peut être religieux.
Pardon, ça peut être aussi un peu dur hein, quand tu as des enfants qui vous réveillent 10 fois la nuit en criant.
Ah bah bien sûr, et d'ailleurs, il le raconte dans le texte.
Bah
oui,
il y a les deux pages que j'ai lues.
C'est toujours si merveilleux, ouais, les enfants.
Mais non, c'est pour ça que je dis que tu te trouves là au bord du fait de croire, parce que c'est une telle détresse aussi, effectivement, d'être vulnérable.
Il fait des portraits à 6 mois. Il fait les portraits de la vaccination.
Oui, de l'allaitement, de la nuit où Bernadette est souffrante. Oui. Et ce que je trouve très émouvant, c'est qu'il fait également pour elle un portrait des gens qui ont constitué sa famille et qui ne sont plus vivants. Donc tous ses aïeuls, les grands-parents, les grandes-tantes. Francis Jammes, à la base, a des parents qui viennent de la Guadeloupe. Donc il y a derrière lui aussi tout un pays perdu, miraculeux, plein de grandes feuilles, d'oiseaux qui chantent, de couleurs exceptionnelles. Il essaye d'expliquer tout ça à Bernadette pour lui faire un portrait un peu concret de ce que représente sa vie au moment où il l'écrit. Et on peut quand même dire, avec un peu peut-être de mauvaise foi, mais enfin peu importe, j'y vais, c'est que il se trouve dans ce livre de Francis Jammes, qui ne faisait que de la poésie et en était très fier, à mon sens, un morceau d'autofiction avant l'heure, dans le sens où c'est là la tentative d'un jeune père de parler du bouleversement que représente comme ça l'arrivée d'une petite fille dans sa vie, à une époque où une petite fille qui naît, c'était pas non plus autant un événement qu'un garçon qui allait représenter tout un certain nombre de choses. Donc c'est un jeune papa complètement révolutionné, complètement démuni, face à un tout petit bébé qui devient son guide spirituel, qui devient en fait... Oui, c'est-à-dire un modèle de comment l'homme et la femme ne devraient jamais cesser d'appréhender le monde. C'est-à-dire que dans le regard de Bernadette, qui n'a encore rien vu, il y a tout l'émerveillement que l'on perd au cours d'une vie et qu'il faudrait constamment conserver. Et quand j'entends en permanence dire que, oui, les hommes, on les entend jamais sur la paternité, sur leurs faiblesses, leurs doutes, leurs sensibilités, eh ben, ce bouquin de 1908 vous montre bien avant l'heure que si la paternité pèse quelque chose dans la vie d'un homme, et que c'est très beau quand les hommes se mettent à en parler et font, sans le savoir aussi, une espèce de liste de toutes leurs angoisses.
Ils le sont aujourd'hui de plus en plus, les hommes.
Bien sûr, mais
de plus en
1908...
Plus des papapoules presque. Mais ça prend des proportions souvent incroyables.
Quelle part ça prend dans la littérature.
L'enfant devient l'enfant roi, l'enfant devient...
Non, moi j'ai été... Vraiment, votre préface est magnifique. Et alors, vous dites quelque chose, ces livres à mon actif, et je ne suis pas loin de penser que cette préface et ce livre merveilleux que vous nous tenez entre les mains, ce que j'ai là, est l'œuvre de ma vie. Merci à Arnaud Le Guern, l'éditeur Rare et Sensible, et Prix de Beauté de m'avoir permis de cette joie. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il est en Dieu, mais Francis James a existé et existe encore. Et ma foi, c'est un miracle suffisant. C'est un miracle suffisant.
Bah, écoutez, il faut dire une chose, c'est que quand on se propose de vendre de la poésie, aujourd'hui, on est rarement accueilli par des hurrahs de la part de son éditeur.
C'est un art qui a complètement disparu.
Exactement, et qu'il
mais
faut...
Mais qui commence à revenir grâce aux jeunes.
Ah bah alors, dont je ne suis pas, mais écoutez, j'espère. Non, mais c'est-à-dire que j'ai proposé quand même de rééditer ce texte, qui était du coup libre de droit, à plusieurs éditeurs, dont beaucoup m'ont dit... Ah, mais c'est très religieux, il faut vraiment recontextualiser. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait besoin de recontextualiser. On recontextualise pas le cantique des cantiques. Se sentira appelé par la religion qui en a un petit peu. Et les autres, les païens et les athées comme moi, seront bouleversés par ce qui traverse comme ça la tête d'un jeune père qui était avant préoccupé par les femmes et par des choses qui n'avaient rien à voir avec une toute petite fille qui dépend entièrement de lui.
Et moi, je vais rebondir, je pense que c'est le livre parfait à offrir à tous les couples qui vont avoir leur premier bébé.
Mais il parle de la mère, là aussi.
Ah, bien sûr, il parle de,
oui,
de la mère, évidemment.
Père, mais...
Ben, oui, alors, si tu veux, très souvent, on entend beaucoup les mères. Là, il évoque effectivement la mère de son enfant, ouais, qui sera ensuite la mère de ses 11 enfants. Donc, ça, c'est le... Mais moi, je suis beaucoup plus touchée, par exemple, par cette vulnérabilité de l'homme qu'on entend, surtout à l'époque, qu'on n'entend pas s'exprimer là-dessus. Ouais. Qu'on n'entend pas s'exprimer
là-dessus.
C'est vrai, à
l'époque, c'était novateur, certainement.
Et c'est vrai que la poésie est un sport qui se perd un petit peu, qui revient, effectivement, mais qu'on a beaucoup de mal à commercialiser parce qu'on a perdu, c'est vrai, il faut le dire,
très difficile de se faire publier un recueil
de
poèmes.
Bah, bien sûr, et puis c'est compliqué de cultiver chez les gens le goût du poème que l'on apprend que l'on apprend par cœur et qui vous sert de gris-gris.
Pourtant,
c'est-à-dire...
on peut dire que la poésie, c'est la quintessence pour moi de la littérature. C'est-à-dire qu'en un
acte, bien sûr,
la littérature devrait être poétique, devrait être inspirée par la poésie.
Mais à l'époque, moi qui passais 40 ans, et pas loin dans l'édition, m'occupais de maisons d'auteurs et tout, c'était une époque où la poésie, dans chaque maison d'édition, il y avait un département poésie.
Ouais.
Calimard, bien sûr.
Bien sûr. Fond, bien sûr.
Chez Belfond, on avait la poésie, c'était là. Et aujourd'hui,
et elle manque dans la littérature, la poésie, justement. Elle devrait être
complètement
aussi poétique, la littérature.
Voilà, Francis James, ma fille Bernadette, la préface d'Emma Becker qu'on vient d'entendre. Emma, j'étais émerveillée par vos propos, par ce que vous avez dit, par ce que vous faites. Bravo.
Bah, merci beaucoup.
Et là, je vais demander à Silvana Bergonzi, parce qu'elle devient de plus en plus, je l'intègre dans mon émission parce que je la trouve parfaite.
Bien raison.
Brillante, intelligente, elle m'envoie des auteurs, on discute tous les deux, on s'appelle. Et là, on va parler de chatons encore. Elle va nous parler de Fanny Brucker, c'est ça?
C'est ça.
Trois chatons et un enterrement.
Voilà, dans la même
programme,
dans la même collection que Emma,
édition
Litos, qui fait donc de la poésie et du classique.
Ouais.
Et là, on a fait quelque chose qu'on ne fait jamais, un inédit. C'est-à-dire que ce livre est sorti directement en format poche. C'est Fanny Brucker qui était publiée chez Lattès et qui avait fait Far West sur un chien. Et là, elle revient chez nous avec trois chatons et un enterrement.
Ouais. Alors, elle n'est pas là parce qu'elle vit en Charente-Maritime.
C'est ça.
Hein, c'est ça.
C'est ça. Et je le mettrai en coup de cœur, puisque moi, j'ai un film préféré, c'est Quatre mariages et un enterrement. Et bien là, c'est trois chatons et un enterrement. Si vous aimez les chats, si vous aimez beaucoup d'humour, eh ben, il faut se plonger dans ce roman où on voit c'est Jacques qui apprend que sa marraine est morte. Et
j'ai pensé au début, juste pour un petit clin d'œil, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est quoi? C'est les Aristochats, les trois prénoms des Aristochats, tu sais, Marie, Berlioz et Toulouse. Je me dis, qu'est-ce que font les Aristochats, les trois chatons, c'est quoi? Et rien à voir, et c'est tout à fait une petite merveille, parce que j'ai lu aussi ce livre.
Oui.
Ouais, mais je te laisse en parler.
Oh ben l'histoire est très simple. Jacques apprend le décès de sa marraine, donc il va sur place, et là, il va rencontrer une voisine qui a trois chatons à placer, et un voisin, un acariâtre, appelé Citron. Et à partir de là, il y a toute sa vie qui va changer. Voilà, c'est vraiment un petit livre à lire pour l'été. C'est sympa. Et moi, je me suis bien amusée. Je ne sais pas toi, Jean-Paul.
Ah ben, je me suis bien amusée. Alors, c'est un tout petit livre. Alors, en plus, pour l'été, je le dis parce que c'est rare d'avoir des livres à ce prix-là. 8,20 €. Un tout petit livre merveilleux. Une très belle couverture avec les trois chatons magnifiques. Fanny Brucker, Trois chatons et un enterrement. C'est vraiment... Non, c'est un petit livre. Partez en voyage sur la plage, mettez-le dans la poche. C'est super.
Pour ceux qui aiment les chats, quand même.
Ah, il faut aimer les chats, il faut aimer les chats.
Ouais.
Miaou. Voilà, on va écouter une dernière petite chanson, un peu festive. Et puis, j'aimerais bien vous recevoir une prochaine fois pour vos prochains livres dans mon émission. C'est un vrai bonheur de vous avoir. J'ai une chance fantastique. Merci Sylvana, merci à Fanny qui n'est pas là, mais peut-être qu'elle nous écoute, je ne sais pas. Merci à Emma Becker.
Merci.
Voilà, donc le livre aussi de Francis James, La fille Bernadette, était publié aux éditions Litos. Et puis merci à Sue Berger. Bon, pour quand le prochain livre, Sue?
Ah bah, celui-là vient de sortir et on vient de le rééditer puisqu'il
est déjà
était
en train
épuisé.
D'être écrit.
Oui, bien sûr.
Il était, je le disais tout à l'heure, il était en vitrine dans les librairies.
Oui, tout à fait.
Remarqué, et aux côtés du livre d'Emmanuel de Bosson.
Ouais.
Voilà, et merci à Emmanuel, que j'ai toujours un plaisir avec lequel d'échanger, de parler de littérature, de livres et tout. Voilà.
Merci Jean-Paul.
Un peu de musique,
merci
et je vous souhaite un bon mois de juillet, de très belles vacances d'été. Et on se retrouve, je ne sais pas si on va faire une émission. Il faut que je regarde un peu les dates au mois d'août. Au mois d'août, il n'y a pas grand monde. Les auteurs ne sont pas très à Paris. Et on se retrouve en septembre.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Depuis s'en est allé.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des éditeurs créé par Jean-Yves Dournon et dirigé par Jean-Paul Nadéo, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 3 juillet 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.